Bonjour à tous les auditeurs d'Aligre FM. Bienvenue dans notre émission consacrée aujourd'hui au philosophe René Scherrer. Il s'appelle René Scherrer en transversal. Alors, à l'occasion d'une publication dans la revue Chimère, qui a donc consacré dans son numéro 105, parution 2024, donc il y a quelques mois, un dossier au philosophe René Scherrer. Voilà, que nous avons toutes les quatre bien connues. Voilà, vous avez à ma table, chers auditeurs, trois invités, trois personnes qui ont contribué, soit par des textes, soit par l'organisation de ce numéro, à reparler de la pensée de René Scherrer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Vanessa Brito, des Beaux-Arts de Marseille. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Voilà, professeur, on dit de théorie, c'est ça, aux Beaux-Arts ?
Oui, théorie, philosophie de l'art.
Voilà, et philosophie de l'art. Le plaisir également de recevoir Christiane Voller, dont nos auditeurs peut-être se souviennent, parce que tu étais venu, ça y est, j'ai dit tu, c'est pas nous, on se connaît, tu étais venu parler de ta philosophie de terrain, de ton petit ouvrage philosophie de terrain, et pas seulement. Bonjour Christiane, philosophe, attachée à l'Institut Convergence Migration, n'est-ce pas, et au LCSP, alors c'est quoi LCSP de l'Université Paris-Cité ?
Le Laboratoire du changement social et politique.
Voilà, merci Christiane d'être venue. Et puis Marie-Dominique Garnier, voilà, le rattachement Université Paris 8, on aura l'occasion d'en reparler.
Bonjour.
Merci Marie-Dominique d'être venue. Et donc, laboratoire UR-LEG, c'est ça on
dit? Oui, c'est ça. Alors LEG, c'est laboratoire d'études des genres et de sexualité.
Voilà, super. Bon, eh bien, chers auditeurs, merci de nous écouter, de nous suivre depuis tant d'années. Vous savez que l'émission Philosophie au présent est un partenariat entre Aligre FM et le Collège international de philosophie. Vous n'entendez pas Michele Saporiti et Stéphanie Ronchevski qui nous écoutent, qui ne sont pas là, mais vous avez la voix de Nathalie Perrin, moi-même. Alors, on va commencer d'abord par un petit tour de table, parce qu'il se trouve que nous avons connu René Scherrer. Vanessa Brito, comment avez-vous connu René Scherrer?
Oui, alors moi j'ai rencontré René Scherrer à l'Université de Paris 8. C'était en 99, je venais d'arriver de Lisbonne pour faire ma thèse et je commence à suivre son séminaire qui était une sorte de terre d'accueil pour les étudiants étrangers. Alors il faisait pas cours, son séminaire était plutôt un espace de parole où on se sentait assez en confiance pour exposer nos travaux, tester des hypothèses, des pistes de travail. Ce qu'on faisait à l'époque était sans doute pas génial parce qu'on maîtrisait pas bien la langue française. Et on n'avait pas forcément les méthodologies et les outils qu'on donnait aux élèves dans les lycées en France, où l'enseignement de la philosophie est basé sur le commentaire de texte et la dissertation. Mmh. Et néanmoins, donc, indépendamment de la qualité de ce qu'on présentait, c'était quelqu'un d'une immense générosité qui était toujours là pour nous encourager à aller de l'avant. Et sans forcément nous juger et qu'on se sente évalué. Et c'est pour ça, je pense, que déjà à l'époque, on avait la pleine conscience que son séminaire était ce qui restait devant scène à Paris 8. Oui. Quelques années plus tard, il écrit un très beau texte qui s'appelle « Vincennes, la parenthèse interrompue ».
Magnifique, oui.
Où il écrit ceci, il dit « À Vincennes, on en avait fini avec le jugement ». Donc c'était en lieu d'expérimentation, avec une capacité d'accueil presque inconditionnelle. Donc il y avait des étudiants étrangers, bien sûr, mais il y avait aussi des ouvriers, des personnes qui n'avaient pas de diplôme, qui faisaient de la philo, qui n'étaient même pas passés par le lycée. Et tout le monde y trouvait sa place, sans que personne ne soit jugé. Et c'est ça qui perdurait dans son enseignement. Voilà. Puis il avait aussi une manière très particulière de philosopher dans son séminaire. C'était qu'il partait de n'importe quoi, une image, une phrase, une idée, et il tirait des fils de manière assez libre. Donc ces fils n'étaient jamais des lignes droites, c'était toujours des zigzags, de l'improvisation. Il écrivait aussi comme ça. Et pour moi, qui était une étudiante étrangère, qui n'avait pas la méthode des filières élitistes françaises, cette manière d'écrire était quelque chose de très libérateur.
Oui, on y reviendra. On aura, j'espère, l'occasion de lire au moins un extrait d'un article que vous avez fait paraître. Alors, vous avez entendu, Vanessa Brito a utilisé l'imparfait. Oui, j'ai oublié de dire que René Scherrer est mort en 2023. Il était né en 1922. Il a presque fait ses 101 ans, hein, c'est ça ?
Oui.
Voilà. Et quand Vanessa parlait de... Vanessa Brito parlait de ses séminaires, il était déjà fort âgé et on l'a connu toute... fort âgé, professeur émérite venant donner des cours dans une gratuité et un esprit, on pourrait dire, mai 68, mais on y reviendra. Christiane Voller, la rencontre avec René Scherrer.
Alors elle s'est faite aussi à l'occasion de son séminaire, où aussi j'ai éprouvé vraiment sa politique de l'accueil, et aussi, de la même manière, la politique de quelqu'un d'âgé, en fait, mais en réalité, un éternel gamin.
Oui.
C'est-à-dire, je n'avais pas jamais l'impression d'être devant un vieillard. Il avait une espèce de vélocité, de manière de se déplacer, de regarder, de parler, et une silhouette qui était restée très enfantine.
Oui.
Et puis, il avait cette espèce de curiosité, en fait. Et en même temps, c'était quand même un monstre d'érudition. Et Scherrer, pour moi, est quelqu'un qui se fonde sur son érudition, c'est-à-dire une connaissance historique, littéraire, absolument exceptionnelle. Et il y avait autre chose qui, à mes yeux, le caractérisait aussi, c'était son incroyable élocution.
Oui.
Une manière de parler où chaque syllabe se détachait, presque d'une manière un peu dandy, mais avec une précision, à la fois la précision du vocabulaire et la précision de l'élocution, et une virtuosité, effectivement, dans la manière d'en jouer. Et en même temps, justement, avec tout ça qui pouvait produire une espèce de narcissisme dandy, on n'était pas dans cette dimension narcissique. On était dans ce que décrivait Vanessa, c'est-à-dire une capacité d'accueil, d'écoute et d'ouverture sur l'autre, quoi, qui était tout à fait réelle, qui était en partie aussi gênée par sa surdité à ce moment-là. Mais sa surdité, justement, contredisait cette espèce de volonté d'aller vers l'autre, d'entendre, d'écouter, et finalement d'être dans une imprégnation réciproque.
Voilà. Oui, une surdité qui était apparue chez lui relativement jeune, hein, dès l'âge de 40 ans. Il était déjà atteint de surdité, nous avait-il confié. Marie-Dominique Garnier.
Oui, moi, je suis arrivée bien après vous deux. En fait, moi, j'ai suivi un des deux ou trois parmi les derniers séminaires qu'il a donnés. Et en fait, je l'ai rencontré surtout, donc je suis collègue parce que j'enseigne aussi à Paris 8, mais je l'ai rencontré en passant par un de ses étudiants qui est venu suivre un de mes cours en études de genre, et en passant par deux langues étrangères, le latin et le grec. Je suis tombée sur ce livre qu'il a coécrit avec Ockenheim qui s'appelle Coïr,
oui.
Et j'ai entendu une espèce de queer là-dedans. Je me suis dit, il faut à tout prix que je lise ce livre. Et puis, l'autre langue étrangère, c'est une lettre que m'avait transmise l'étudiant en question, où il signait en grec « Chaire », X-A-I-R-E, qui veut dire salut, alors désolé pour la prononciation. Et puis j'ai entendu une espèce de salut dans le nom de Scherrer. Et du coup, je me suis dit, ce nom est magnifique. Il faut aussi que j'aille voir qui est la personne qui va avec ce nom et tout ce qui est écrit sous ce nom, ou entendre à la fois du partage, Scher, et puis de la coupure, Scher, comme en allemand. Mais bon, donc c'est un rapport avec les langues de Scherrer. Et effectivement, j'ai été frappée aussi par sa générosité. Je me souviens. Je le vois encore en train de descendre de l'estrade avec un paquet de boules de gomme distribuées parmi tous les participants. Pour moi, c'est un contact idéal avec la philosophie en passant par la boule de gomme.
Il apportait des bonbons et il était très exigeant sur les bonbons.
Ah oui.
Absolument. Alors, on a pensé cette émission en relation, je le rappelle, avec ce numéro 105 de Chimère paru en 2024 pour, voilà, autour de la pensée de René Scherrer, pour ne pas l'oublier. Et on a pensé cette émission en deux grands moments. Le premier moment, relatif aussi aux rubriques de cette revue, hein, agencement, concept, politique, esthétique, rubrique, voilà, qui font partie, enfin, ou en tout cas qui donnent sa structure au dossier Scherrer. Alors, dans cette première partie de l'émission, agencement et esthétique, je vais te passer la parole, Vanessa Brito. Vous avez écrit, Marie-Dominique et toi, un très beau texte, René Scherrer en transversal. Voilà, alors Vanessa, cette question de l'agencement Scherrer.
Oui, alors les textes qui sont réunis dans cette rubrique agencement, ce sont des textes qui esquissent des portraits de ce philosophe, donc, qui est une figure méconnue de la philosophie française contemporaine, et peut-être même déjà oubliée, puisque la plupart de ses livres sont épuisés, introuvables, voilà. Et je pense que la particularité de ces textes ou de ces portraits, c'est qu'ils ne commencent pas par le centre, mais plutôt à partir des bords, des marges, hein, en partant de quelques images mineures, de gestes latéraux, de quelques anecdotes. C'est le cas du très beau texte de Florent Perrier, qui part d'une image souvenir pour retrouver la pensée de René dans un geste qui est apparemment anodin, sans importance. C'est le geste de composer un bouquet de fleurs, qu'il définit comme un art d'associer, de trouver des correspondances, de tisser des liens avec délicatesse. Et c'est un mot qui définit très bien voilà, la manière de faire de René Scherrer. Et puis, il y a aussi un très beau texte de Giorgio Passerone, qui raconte un épisode à la Cinémathèque de Boulogne, où ils étaient allés présenter le livre qu'ils ont coécrit, Passage pasolinien. Et juste avant son intervention, René arrive à la Cinémathèque avec le nez cassé et commence à jouer son propre personnage, nous dit Passerone, à faire ce qu'il appelle un extraordinaire cinéma virtuel. Il se met en scène, il joue son propre rôle. Et ça me semble intéressant, ces textes qui partent comme ça des anecdotes, parce que les anecdotes d'une vie nous permettent parfois de saisir aussi les singularités d'une œuvre. Et Scherrer, comme Walter Benjamin, il donnait une valeur positive à l'anecdote. Il a une écriture qui est très proche de celle de Benjamin, qui accorde l'importance aux détails, aux sensations, aux couleurs, aux images de la pensée, voilà, et aux anecdotes aussi. Pour lui, en fait, l'anecdote était aussi le refus de toute hiérarchie dans le domaine de la pensée, c'est-à-dire que voilà, tout est également bon à être pensé, et c'est aussi le refus de la pensée abstraite, parce que l'anecdote, elle nous touche. C'est de l'expérience, elle fait rentrer en fait certaines choses voilà, dans notre vie. En cela, ces textes, ils sont très fidèles à sa manière de penser et d'écrire. Ce sont des textes qui ravivent la manière d'écrire qui était celle de René. Ce ne sont pas des analyses démonstratives, ce sont plutôt des textes erratiques qui ravive la manière d'écrire qui était celle de Scherrer.
Oui, parce qu'il avait vraiment une écriture où vie et théorie n'étaient pas séparées. Son écriture reflète aussi ces sensations, cet empirisme. Alors, peut-être, on aurait pu lire un extrait je prends au hasard, de Florent Perrier. Page 29, un petit bouquet garni. Il faut qu'on fasse écouter aux auditeurs un petit peu les quelques lignes des auteurs. Invité une première fois, donc je lis un extrait de Bouquet garni, Florent Perrier. Invité une première fois par René Scherrer au mois d'août 2016, à séjourner quelques jours à la gare, sa maison de campagne, située dans le Cher et jadis achetée avec Guy Oeckinghem, ma fille et moi avions passé de magnifiques journées, notamment à l'extérieur, profitant de belles et grandes balades dans les sous-bois avec notre hôte, et surtout d'un jardin foisonnant auquel il accordait une grande attention et qu'avec Guy, ils avaient véritablement transfiguré. Merveilleux cuisinier, faisant de trois fois rien un festin, René avait alors appris à ma fille, âgée de 6 ans, à composer avec délicatesse un bouquet garni à partir des simples et autres aromates répartis alentour. Depuis lors, et surtout à dire vrai depuis sa disparition, les quelques photographies que j'avais prises et qui témoignent de ce moment partagé, ces gestes minutieux faits en commun, me sont restés en mémoire comme exemplaires. Je m'arrête là, la phrase continue, très beau texte. On est moi, je suis allée à la gare, dans cette maison de campagne absolument extraordinaire. Voilà, et Florent Perrier avait été invité avec sa petite-fille. Vanessa, d'autres choses à ajouter ?
Oui, peut-être dire un mot sur le titre de ce numéro, René Scherrer en transversal. Donc, c'est cette idée que la plupart des textes qui sont publiés parcourent la pensée de René Scherrer en transversal, c'est-à-dire en traversant de manière erratique les grands thèmes qui animent sa pensée, donc l'hospitalité, l'anarchisme, l'utopie et l'enfance. Donc, comme je disais, il n'y a pas d'article académique, mais il s'agit plutôt, en fait, de penser avec Scherrer et de cheminer avec lui. Scherrer était quelqu'un qui aimait penser en marchant. Donc, pour lui, la marche suscitait la pensée et... En même temps, il pratiquait aussi la déambulation comme forme d'écriture.
Tout à fait.
La marche, il, dans le dernier texte qu'il publie chez Chimère, parce qu'il a collaboré avec Chimère pendant 40 ans.
J'ai oublié de le préciser, effectivement.
Donc, il a écrit de très nombreux textes dans Chimère. Et dans le dernier, qui a été publié en 2018, il se définit comme un fervent de la marche. Où il dit que justement la marche enduit une forme de pensée erratique qui va relancer la pensée dans des directions inattendues, voilà, et qui justement peut faire venir au premier plan ce qui est anodin, ce qui est insignifiant, tout en soumettant la pensée à la force des rencontres, à la puissance de l'étrangement. Il a une très belle formule, il dit « la marche rend le lointain proche » et repousse le proche dans le lointain.
Tout à fait, il y a de très belles images d'ailleurs, il me semble, dans le film de François Prenant, de René qui marche aussi un peu près de la gare précisément, ou peut-être du côté de Tulle, mais on reviendra sur la cinéaste François Prenant.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors peut-être on peut passer la parole à Marie-Dominique Garnier pour... peut-être revenir sur ce lieu dans lequel nous avons finalement toutes connu René Scherrer, l'université de Vincennes, qui a été Paris 8 Vincennes, enfin même à Saint-Denis, comme on dit, depuis les années 1979, depuis qu'on l'a fait disparaître du bois de Vincennes, voilà, qui était l'université des Deleuze, des François Châtelet, des René Scherrer, des Guy Hockenheim, des Georges Lapassade,
Foucault une année,
il est très vite allé au collège de France, voilà, pour en tout cas parler tout des historiques. Alors, je te laisse la parole,
Marie-Do. Alors, effectivement, parmi les titres qu'on avait choisis pour ce numéro, et puis on a changé d'avis, on était parti sur le bois, la piste du bois, promenons-nous dans le bois, nous n'irons plus au bois, et puis on s'est dit que c'était négatif et un peu sombre, et donc on n'a pas choisi la négativité, on s'est déplacé par rapport à tout un corpus un peu hegélien, qui était celui dont est parti philosophiquement Scherrer, apparemment, quand on lit un peu ce qui dit de son parcours philosophique. Il parle de la manière dont il est sorti du corpus hegélien pour enseigner ensuite la phénoménologie qui était ce dans quoi toute la philosophie des années 40-50 était plongée en France, Husserl, jusqu'au moment où en 68, et donc ça coïncide avec l'émergence ou l'arrivée de la construction de Vincennes, le département de philo se réunit apparemment en décembre 68 pour décider de fabriquer toute autre chose à Vincennes et surtout de ne pas fabriquer des chiens de garde. J'avais noté cette citation. Et du coup, alors, à partir de 68, il tombe sur un texte dont il avait entendu parler, mais qui est le corpus Fourier. Et donc là, on a l'impression qu'on part à l'opposé de la philosophie. Fourier, on part du côté des attractions passionnées, enfin de tout un corpus qui n'a rien à voir a priori avec la philosophie, mais qui fait partie d'une nouvelle démarche, effectivement, de branchement transversal et de marche à travers des textes. Et bon, il en parle longuement dans plusieurs textes, mais en tout cas, on arrive donc en 68-69 à Vincennes, Ça dure une dizaine d'années. Vincennes est détruite jusqu'à la dernière parcelle. Et alors, moi, je me suis intéressée à une période. Je suis arrivée en 96 à Paris 8 et j'ai regardé un peu ce qui s'est passé juste avant, en 95. Pierre Riboulet crée la bibliothèque, une magnifique bibliothèque où je vais chercher justement des bouquins dès que je peux. Et en cherchant Scherer dans cette bibliothèque, il faut marcher. Il faut marcher, pourquoi ? Parce que Scherer est un peu partout, disséminé, philo, sciences de l'éducation, anthropologie, esthétique. Doit être un peu partout, dans plusieurs codes, de toutes les couleurs. Et donc je me suis dit, tiens, c'est pas mal, la couleur. Donc je tombe sur les passages pasoliniens, ce magnifique texte. J'entends parler de la passade plusieurs fois. Il se passe beaucoup de la passade à Paris 8. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas travailler sur les passages schérériens plutôt que pasoliniens, dont, en cherchant un peu autour de l'architecture, puisqu'effectivement, la philo, pour moi, c'est intéressant quand ça devient concret, puisque je n'ai pas de formation philosophique, je me suis dit, en me cassant la figure aussi plusieurs fois sur cette fameuse passerelle qui réunit les deux morceaux de cette université, symboliquement, Pierre Riboulet, donc l'architecte en 95, a voulu recoller une banlieue fracturée socialement et recollée symboliquement en créant ce pont autoroute, enfin cette espèce de passerelle au-dessus de la Nationale 1 qui s'appelle l'avenue Stalingrad. Et du coup, je me suis aperçue que ce passage en fait avait été inspiré à Riboulet par Fourier. Mmh. C'est Fourier qui crée des rues-galeries dans l'espoir de refabriquer des flux, des circulations où les gens se rencontrent plutôt que d'être séparés chacun dans sa boîte, chacune. Et du coup, alors c'est très intéressant de travailler sur cette passerelle parce que justement, il lui arrive des ennuis en ce moment. Elle est coupée avec un projet, il y a une mission architecturale actuelle qui va sans doute donc mener à bien sa reconstruction d'une partie du campus pour 2025-2026. Mais en tout cas, toujours est-il que la passerelle Riboulet est actuellement coupée, que les flux sont d'une certaine manière dérangés et remplacés par des escalators, par une structure en bois, comme s'il fallait revenir au Gradus ad Parnassum, enfin comme s'il fallait symboliquement remettre des escaliers, de la pensée. Enfin bon, c'est sans doute bien de refaire une université, mais en ce moment, elle prend un tournant inquiétant, d'autant que sa charte graphique a changé, que le rouge, qui était sa couleur, est remplacé par du rose violacé, et qu'elle ne s'appelle plus du tout Vincennes à Saint-Denis, avec la flèche rouge qui signalait la dystopie. Elle s'appelle maintenant Université des Créations, avec un 8 qui est devenu une esperluette. Et donc pour moi, c'est une désesperluette. Je n'espère pas grand-chose de cette évolution, peut-être à moins qu'effectivement, on arrive à refabriquer d'autres passerelles et à tordre d'autres cheminements.
Oui, comme une double disparition, puisqu'on rappelle que bon, le centre universitaire de Vincennes qui a été créé par Edgar Faure, entre guillemets, c'est-à-dire pour essayer de mettre dans une banlieue proche de Paris. La contestation rouge. Ouais. Ce centre universitaire, à son époque, qui regroupait les plus éminents chercheurs dans tous les domaines, a lui-même été, on pourrait dire, balayé. Hein, et René Scherer, d'ailleurs, revenait souvent sur cette histoire de la disparition du centre, le premier centre universitaire de Vincennes. Et sa délocalisation à Saint-Denis. C'est et là, ça. On assiste finalement aussi à une double disparition. Ouais. Hein, moi, y donnant des cours d'ailleurs, c'est incroyable. C'est quand même un lieu qui a vu les plus grands philosophes passer. On les a cités, mais Gilles Deleuze.
Tout à fait. C'est un lieu qui a eu un immense rayonnement international et. Et l'un des problèmes du corpus Scherer, c'est qu'il n'est pas traduit, justement, pour des raisons diverses, il est peu traduit.
Oui. Oui, c'est ce qu'évoquait Vanessa à l'instant sur la difficulté à trouver cette œuvre. Alors, je regarde l'heure, on a encore 7 minutes. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être aidés à la technique par Philippe Donnefort. Donc, je le regarde droit dans les yeux. On a encore 7 minutes, Philippe, ça va ? Avant de lancer la petite musique, vous êtes bien, chers auditeurs, sur Aligre FM et Philosophie au présent, 93.1. Nous voulions aborder, là, ensemble, on a 7 minutes, mais ma foi, c'est énorme. Un petit peu la question du cinéma chez René Scherer. On a évoqué ce magnifique ouvrage écrit avec Giorgio Passerone, Les passages pasoliniens. Mais il y a aussi dans ce numéro de Chimère 105 consacré de manière importante à l'œuvre et à la pensée de René Scherrer, mais pas sous le plan précisément d'articles qui seraient trop universitaires, mais d'articles véritablement sensibles, hein, pour rendre hommage au bon sens du terme à cette pensée. Vanessa Brito, tu as fait une interview de François Prenant avec Florent Perrier, sur le film de François Prenant qui s'appelle Le jeu de loi du professeur Poilibus. Alors, j'ai lu cet entretien qui est vraiment très intéressant, où François Prenant revient sur sa rencontre avec René Scherrer et sur ce qu'elle a voulu faire de ce film. Alors, est-ce que tu peux nous reparler de ce film? On l'a toutes vu, hein, et on prend la parole de manière indiscernée, indiscernable. Poilibus, c'est un peu le double de Scherrer, d'une certaine manière.
Tout à fait. Ouais. Alors peut-être préciser avant que Scherrer, il est au centre de deux films qui lui ont été consacrés. Donc en 2012, il y a Susie Cohen qui tourne avec lui 26 lettres et en philosophe.
Tout à fait.
Qui est une sorte de remake de l'abécédaire de Gilles Deleuze, à l'origine du livre publié chez Hermann, Petit alphabet en pertinent, que tu as juste devant toi.
Oui.
Mais je pense que c'est dans le film de François Prenant, Le jeu de loi du professeur Poilibus, qu'on le reconnaît le mieux, en fait. Parce qu'on le voit en train de penser en marchant, de râler quand il fait ses courses au supermarché. C'est quelqu'un qui râle beaucoup.
Oui.
De débroussailler son jardin en bleu de travail. Donc il est filmé au quotidien.
Oui.
Souvent en dehors des cours, quoi, de l'espace du séminaire, d'une manière qui donne à voir l'imbrication entre sa vie et sa pensée. Je pense à une scène à la fin du film de François, très parlante, c'est qu'on le voit, elle le filme en train de réparer soigneusement en cheval à bascule qu'il a trouvé à la poubelle. Et là, François Prenant, elle lit en voix off, en extrait d'un texte, très beau texte, Éloge du balayeur, qui est le dernier texte de l'ouvrage En parcours critique, où René esquisse son autoportrait. Et donc il fait sienne la formule de Deleuze, « Mieux vaut être balayeur que juge », et évoque sa manie, il aimait bien ce mot, la manie, qui est un mot commun aussi bien aux enfants qu'aux vieillards, sa manie de constamment ramasser toutes sortes de petites choses qu'il trouvait par terre. Donc je le lis, je suis connu pour ramasser et empocher des bouts de ficelle, les élastiques, les trombones, les pièces de 5 centimes, des tiroirs en sang plein. Et puis plus loin, il ajoute, on peut y voir le propre de la philosophie, dont la fonction est de ramasser le laisser pour compte, de récupérer ce que laisse tomber à une vitesse sans cesse accrue, la fuite en avant de la technique moderne.
Oui, on revient sur sa grande critique du progrès, et tu citais à l'instant le petit alphabet impertinent, et la lettre P est consacrée à Pétrole, hein, qui est vraiment non seulement un rappel du film Petrolio de Pasolini, mais aussi le symbole de cette civilisation, hein, tant critique par Fourier, civilisation qui a pour centre, hein, pour centre le pétrole pour Scherrer et la dévastation de la planète. Hein. Oui, on a toutes vu le film de François Prenant et ses magnifiques images, et Poilibus, c'est incroyable parce que c'est aussi la révélation, donc ce double Scherrerien à l'écran, c'est la révélation d'un philosophe qui se prend pas au sérieux. Ce que ne supportait pas Scherrer, c'est ce fameux esprit de sérieux. Peut-être y reviendrons-nous à la toute fin de l'émission, comme on se demandera entre nous qu'est-ce qu'on retient de Scherrer. Moi, en tout cas, je reviendrai sur l'idée qu'il ne supportait pas, un peu comme son meilleur ami François Châtelet, ne supportait pas l'outrecuidance et les outrecuidants. Hein. Voilà. Et ce Poilibus, hein, qui est drôle, qui est un philosophe travailleur, un homo faber avant d'être un homo sapiens, pour reprendre la distinction bergsonienne, est très drôle aussi, une espèce de regard moqueur de la position du philosophe, voilà, qui se prend au sérieux, hein, de cet esprit de sérieux, et que François Prenant met en valeur. Voilà. Oui, Vanessa.
On peut préciser pour nos auditrices et auditeurs que le film de François Perrenon, il est en libre accès dans Dérive.tv, le site Dérive.tv.
Ah, voilà. Super, magnifique. Vous savez qu'on est extraordinaire, mesdames. Il est 29 et je pense bien qu'on va pouvoir écouter Refazenda, je ne sais pas si je prononce bien, mais Vanessa Brito refera la bonne prononciation. Allez, un peu de musique brésilienne et on dira pourquoi.
Abacateiro, acataremos teu ato. Somos do mato como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra demorão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, cedo antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra demorão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, azedo cedo antes que o janeiro doce manga venha a ser.
Voilà, vous êtes de nouveau sur Aligre FM dans l'émission Philosophie au présent, un partenariat Aligre FM et le Collège international de philosophie. Nous sommes aujourd'hui réunis avec Vanessa Brito, Christiane Voller, Marie-Dominique Garnier autour d'un très beau numéro de la revue Chimère, revue des schizoanalyses fondée par Gilles Deleuze et Félix Guattari. Mesdames, messieurs, il faut courir acheter ce numéro et regarder cette revue extraordinaire dans laquelle René Scherrer a écrit pendant tant d'années des articles absolument somptueux. Et il y a des philosophes encore qui pensent en acte, hein, voilà, qui ne sont pas des universitaires. Point de suspension. Bien, on a écouté Gilberto Gil, Refazenda, c'est ça?
Oui.
C'est ça. Vanessa, c'est toi qui nous as proposé d'écouter Gilberto Gil, là, en concert, hein, c'est ça?
Oui, oui.
Voilà, la bossa nova, donc on adore. Mais pourquoi?
Pourquoi?
Pourquoi pour Scherrer, en tout cas?
Bah, parce qu'en fait, René, il est allé au Brésil en 99 et il avait été invité à parler de la philosophie de Deleuze et Guattari à l'université Fluminense. Et je pense que c'est un voyage qui l'a marqué parce qu'à son retour, il a écrit un très beau texte qui s'appelle « Rio dans ses plis ». Qui est publié dans la revue Chimère, un texte qui l'accompagne d'une série d'aquarelles. Donc René, oui. Moi j'ai marché avec lui à Lisbonne, à Maastricht, à Paris. Il avait cette, Il prenait jamais de photos quand il voyageait. Oui. Il achetait rarement des cartes postales. Mais par contre, il s'arrêtait tout le temps pour dessiner ce qu'il voyait dans un carnet de croquis. Donc, il avait une très grande qualité d'attention, sens du détail. Et donc, ce texte qu'il publie dans Chimère est accompagné d'une série d'aquarelles où il dessine les rues de Rio, des paysages, mais surtout beaucoup d'attitudes et de postures corporelles qu'il voit. Donc les vendeurs sur la plage, les corps des danseurs de samba, des porte-drapeaux des écoles de samba en mouvement, donc les enfants noirs des favelas qui ramassent des bouteilles vides pour gagner un peu de sous. Donc c'est une ville qu'il avait touché, je pense, où il avait trouvé, comme il dit, des subjectivités à fleur d'épiderme.
Voilà, c'est très beau. Merci en tout cas pour cette magnifique musique de Gilberto Gil et merci à Philippe Donnefort de nous l'avoir fait écouter. Nous sommes désormais dans la deuxième partie de l'émission consacrée à René Scherrer pour ce numéro 105 de la revue Chimère des schizoanalyses. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser davantage aux articles, ou en tout cas aux articles touchant aux thématiques de la politique et du concept. Cher Christian de Voller, voilà, je te laisse la parole. Tu as écrit un magnifique article qui s'appelle « Puissance politique de l'accueil », précisément dans ce moment de politique consacré du dossier Scherrer. Pardon, je te laisse la parole. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement de cette question? Alors, on sait que le grand concept schérérien, c'est l'hospitalité, hein, cet accueil inconditionné de l'étranger qui a à nous dire quelque chose de nous-mêmes.
Oui, tout à fait. Et alors, c'est effectivement Zeus hospitalier, hein, c'est-à-dire effectivement l'hospitalité devenue divinité. Mais en fait, c'est l'homme hospitalier. Et on pourrait dire que finalement, de même que chez Aristote, l'homme est un animal politique, chez Scherrer, il est un animal hospitalier. Oui. Et que c'est d'abord ça qui caractérise véritablement l'humanité et qu'il n'y a pas d'humanité sans ça. Et ça participe de quelque chose qui, à mon avis, s'explique aussi par une dichotomie qui a été établie par Scherrer entre ce qu'il appelle philosophie du désir et ce qu'il appelle philosophie politique. C'est très surprenant parce que c'est quand même aussi un penseur du politique. Donc, on se dit, pourquoi est-ce qu'il dit, mais à Vincennes, il y avait des philosophes qui relevaient d'une philosophie du désir et d'autres qui relevaient d'une philosophie du politique. Parmi ceux qui relèvent d'une philosophie du politique, il cite en particulier, bien sûr, Châtelet, Foucault, Weber, et puis je crois que d'ailleurs c'est Ibn Saïd. Et puis, à l'opposé, non pas en conflit, mais à l'opposé, dans une orientation opposée, il cite en fait, lui, Ockenheim, Deleuze et Guattari. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'on peut quand même considérer Deleuze, Guattari, Ockenheim et même lui-même comme des penseurs aussi politiques. C'est-à-dire que pour lui, il s'agit de dire que ce qui l'intéresse dans la question du politique n'est nullement la question des rapports de pouvoir. Et contrairement, par exemple, à Foucault. C'est pas du tout ça sur quoi il se penche. Ce sur quoi il se penche, c'est ce par quoi nous subjectivons la possibilité d'une relation sociale, ce par quoi nous l'intériorisons. Et ce par quoi nous la subjectivons, c'est le désir. Et autrement dit, le désir, c'est-à-dire ce qui nous projette vers l'autre, et c'est véritablement ce qui définit le désir, c'est justement ça, la définition du politique, dans ce sens-là, qui n'est justement pas le sens qu'il accorde, lui, au mot politique. Donc il y a une espèce de dialectique sur ce plan-là. Et cette question-là, elle va en fait l'amener finalement aussi à penser autrement la question du devenir. Et je pense qu'il y a chez Scherrer aussi un devenir enfant, qui est le fait qu'il a précisément intériorisé, et intériorisé comme étant véritablement un présent, une présence permanente, l'enfance. Et cette présence permanente de l'enfance, c'est le désir. Et ce désir, il est aussi précisément le désir d'accueil et d'hospitalité. Donc il y a véritablement une espèce de champ d'indétermination que je trouve très, très fort dans sa manière de penser ces questions-là. Et dans ce champ d'indétermination, il va y avoir un moment où toutefois, il va se déterminer de manière extrêmement rigoureuse et radicale. C'est le tournant des années, de la fin des années 80 et du début des années 90, où se passe un durcissement, justement, des politiques de l'accueil en France. Un durcissement des politiques migratoires et un durcissement qui va se traduire de manière extrêmement violente, qui paraît extrêmement doux par rapport à ce que c'est actuellement, hein, bien sûr. Quand on a le ministre de l'Intérieur qu'on a, on est un peu... Oui. On disait, mais Pasqua à côté, c'était un enfant de cœur. Oui. Donc, bref, il y a véritablement, en tout cas, un tournant dans ces années-là. Et ce tournant, il l'éprouve, lui, de manière extrêmement violente. Et ça va le pousser comme une sorte de réaction, au sens le plus puissant du terme, à écrire ce Zeus hospitalier et à travailler sur les politiques de l'accueil. Et quand il travaille là-dessus, il ne s'agit pas du tout de tenir un discours sympathique en disant qu'il faut accueillir tout le monde, etc. C'est absolument pas ça. Il travaille sur la dimension profondément débile et insane des politiques anti-migratoires. Cette dimension est insane et débile parce que d'abord, elle n'a pas d'objectif, elle n'a pas de perspective, elle n'a pas d'avenir, c'est-à-dire elle est à l'encontre du désir. Et c'est cette question-là de pratiques politiques et de décisions politiques qui contredisent le désir, qui contredisent l'ouverture des perspectives, ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi, tout à coup, son travail devient extrêmement polémique. Et moi, ça m'a beaucoup frappé effectivement, en lisant Zeus hospitalier. Et du coup, cette question-là, il va en particulier la traduire en associant politique du désir et politique de l'accueil dans une inversion du régime de l'accueil. Et cette inversion du régime de l'accueil, elle se fait à travers le modèle de Sabra et Chatila. Et pour cela, il va prendre la figure de Jean Genet. Et il va dire, Genet, arrivant dans les camps, donc des camps où les gens ne pouvaient même pas être chez eux, ou s'il y a un non-accueil qui va jusqu'au massacre, c'est bien là, bien, au lendemain justement des massacres, Genet est accueilli dans ces camps.
Tout à fait, c'est dans un captif amoureux qu'il faut absolument relire.
Oui, et absolument. Ça, je trouve que c'est très fort, parce qu'il réussit justement à intégrer à la fois la politique une philosophie du désir et une pensée véritablement de la violence politique.
Alors, si tu permets, Christiane, je lis un extrait de ton texte, page 94 donc, de la revue. Chimère, numéro 105, consacré à René Scherrer, en grande partie en tout cas. Scherrer a 71 ans quand il écrit Zeus hospitalier. Et il met ce texte instruit, érudit et quasi encyclopédique sur l'hospitalité au service d'une cause pour laquelle son argumentaire, philosophiquement construit et d'une belle ampleur intellectuelle, est de peu d'efficacité directement politique, se situant sur un tout autre terrain. Précisément parce que le discours du désir échappe au calcul de la stratégie. C'est pourquoi, si les violences discriminantes de la conquête coloniale y sont justement abordées pour destituer le discours de l'apport civilisationnel face aux barbares, le présent des législations n'y est pas inscrit dans cette continuité. Et si la question coloniale est abordée, elle n'est pas directement rapportée à la gestion technocratique des migrations, dont elle est pourtant la conséquence dans la filiation d'une histoire postcoloniale dont la guerre d'Algérie a été l'une des articulations majeures. La référence à celle-ci n'est à aucun moment présente dans l'argumentaire érudit de Scherrer, tandis que la question palestinienne y est abordée par une référence majeure à Genet. Mais Scherrer prévient d'emblée toute objection en assumant pleinement le statut de son ouvrage. Ce livre est un essai que l'on ne doit pas confondre avec une histoire ou un traité. Il ne prétend pas à l'exhaustivité, plutôt à une promenade à travers des idées et des textes. Voilà, un extrait de ton article « Puissance politique de l'accueil ». Donc, l'importance de la figure de Jean Genet dans la pensée, alors politique hein, de René Scherrer, de cette philosophie du désir, ou une politique du désir.
Oui, comme figure à la fois du désir et de la subversion, mais aussi comme figure de l'accueil. Et l'accueil consistant aussi à savoir être accueilli.
Tout à fait.
Donc il y a une, véritablement une question de la réciprocité là-dedans, qui est très puissante dans le texte de Scherrer.
Oui, tout à fait. Hospitalité, enfin le concept d'hospitalité dont il partageait la co-création, on pourrait dire, avec Jacques Derrida. Hein, voilà, ils sont les deux grands penseurs de l'hospitalité. Et Scherrer avait une admiration pour Derrida et réciproquement. Voilà, alors on pourrait peut-être poursuivre aussi à partir de cette question du politique pour peut-être toucher alors du coup à cette question de l'enfance dans la pensée de René Scherrer. Qu'est-ce que cet enfant vient dynamiter d'une certaine manière ? Parce que la figure de l'enfant est une dynamite.
Mais parce que ce n'est jamais une figure de la troisième personne.
Oui.
C'est toujours une figure de la première personne. Mmh. Et c'est-à-dire, c'est vraiment une figure qui est entièrement subjectivée, encore une fois comme un présent. Très souvent, on entend les gens dire « Ah là là, mon ado !» comme si eux-mêmes n'avaient jamais été ados. Ou mon enfant, comme si eux-mêmes n'avaient jamais été enfants. Mmh. Donc, il y a une espèce de manière de tout à coup, de tenir à distance quelque chose qui est comme une période abolie. Or, ce présent permanent de l'enfance en chacun et la façon dont vouloir renoncer à ce présent permanent, c'est se mutiler, c'est là-dessus, je pense, que travaille énormément Scherrer. Mmh. Et c'est là-dessus aussi que travaille sa politique du désir.
Mmh. Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Donc, non pas du tout comme une politique de la prédation, mais exactement comme le contraire. Mmh. C'est-à-dire comme une politique de la subjectivation et de la lucidité sur son propre devenir.
Oui, l'enfant, c'est le mineur, hein, c'est celui qu'on a minoré ou qu'on minore, c'est celui que l'on oppose à l'homme adulte, c'est celui qu'on oppose au majoritaire. On entend là aussi les accents nietzschéens, la philosophie de René Scherrer a ces accents-là, hein, le devenir enfant du philosophe ou le devenir artiste du philosophe. Alors, cette politique du désir était aussi au centre de l'université de Vincennes, qui a destitué finalement une forme de philosophie, une manière de concevoir la philosophie. Et René Scherrer dit d'ailleurs dans plusieurs textes que Vincennes lui a... Ça correspond d'ailleurs à peu près au moment de sa découverte de Fourier, de sa lecture de Fourier, hein, il repense complètement son rapport à la philosophie et son œuvre va prendre un tournant, notamment avec la rencontre de Guy Hockenheim, hein, son amour pivotal dont il parlait souvent. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce rapport de l'enfant au philosophe comme destitution finalement d'une position de transcendance en philosophie, non ? L'enfant, c'est aussi l'enfant en soi, l'enfant en Scherrer, l'enfant en nous-mêmes, qui vient finalement briser toutes les figures de domination, à condition d'accueillir cette posture de l'enfant en soi.
Si finalement, c'est aussi, d'une certaine manière, une réminiscence chez Scherrer de la pensée hegelienne. La dialectique chez Hegel, c'est le fait que justement, on maintienne toujours en soi la permanence de l'étape qui a cependant été surmontée. Et quelque part, il y a encore quelque chose d'une séquelle, mais ce n'est pas une maladie, mais d'un reste hegelien chez Scherrer, c'est-à-dire dans cette idée de la permanence. Mais ça suppose aussi l'idée de la permanence chez l'enfant, déjà de la présence projective chez l'enfant d'un devenir adulte, c'est-à-dire d'une grande maturité aussi. Donc c'est cette question du rapport de l'enfance à la maturité, de l'enfant qui est finalement ce que pourrait être la maturité de l'homme, et qui est en même temps la permanence en lui de son devenir, c'est-à-dire quelque chose qui est en perpétuelle mutation et qui n'est jamais achevé. Cet état d'inachèvement, il me semble que ça pourrait définir effectivement la pensée de Scherrer, et y compris une pensée de la projection et une pensée érotique aussi. C'est-à-dire, il y a véritablement là-dedans du désir et du désir de ce qu'on peut projeter en l'autre.
Oui, tout à fait. Alors, on peut peut-être encore, je relis un passage de ton article où tu évoques précisément Guy Hockenheim, dont, là encore, Vanessa Brito évoquait tout à l'heure le fait que l'œuvre de Scherer est difficile à trouver, hein, que beaucoup de ses ouvrages ne sont pas republiés. Que dire de Guy Hockenheim, qu'on a quasiment oublié aux pages 96-97 tu fais mention, Christiane Voller, de cela. Alors je reviens. Scherer définit ce modèle à partir du paradoxe mis en évidence par Guy Hockenheim dans son appellation même. Là, tu cites Scherer. Guy Hockenheim, dans La beauté du métis, a écrit sur cette alliance une page inoubliable. Peut-être ne suis-je homosexuel, comme on dit vilainement, que comme une manière d'être à l'étranger. Je veux dire une manière de lui appartenir et d'être chez lui. Et tu écris, Christiane, « Ainsi la réalité profonde du désir homosexuel serait-elle ici non pas le semblable homos, mais au contraire le radicalement autre, porté vers le différent, le métis ?» D'où la séquence organisée par Scherer entre nomadisme, hospitalité et transgression, tout à la fois comme essence humaine et comme révélée dans la pratique homosexuelle. Et là, tu cites Scherer, me semble-t-il. Non, Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille Plateaux. On n'échappe pas si facilement à son essence, à l'essence nomade, hospitalière, transgressive. Ce n'est pas le sexe brut qui forme l'homosexualité, mais un régime de signes. Voilà, comme dirait Deleuze, voilà, c'est Scherer qui cite Deleuze. Donc, ce rapport aussi à l'homosexualité comme à accueil et comme hospitalité, presque un concept en fait, une politique de l'homosexualité. Bon, il faut rappeler que Guy Hockenheim est le premier en France à faire, si on reprend l'expression un peu américaine, son coming out, dans les années 70, me semble-t-il. Donc, il était le compagnon de René Scherer, son amour pivotal, comme il dit. En quoi, finalement, la figure de l'homosexuel vient... dynamiter une politique qu'on pourrait dire une politique institutionnelle, une politique gouvernementale. On parlait tout à l'heure de la figure de Jean Genet, et là de Guy Hockenheim, avec lequel il a écrit Cohéré, tu rappelais...
Il y a Cohéré, il y a aussi L'Amatomique, ce sont deux textes absolument magnifiques. Et justement, alors à ce propos, j'essayais de contourner ce mot qui commence par un H, que Guy Hockenheim n'aime pas et qui effectivement coince parce qu'il redéclenche une poétique, une logique binaire, un enfermement dans des cases binaires. Et du coup, c'est pour ça qu'un texte comme L'Amatomique fait exposer tout un tas de choses. Et donc, ces livres sont pleins d'enfants, mais des enfants pluriels. L'enfant, c'est toujours pensé comme un corpus pluriel. Ce sont des bandes d'enfants qui doivent être... arraché idéalement à ce que, avant Foucault, Scherer a appelé le panoptique. Les enfants sont placés sous un double panoptique, parental et scolaire, la pédagogie. Comment faire en sorte que des enfants se retrouvent entre enfants et bâtissent des choses à partir de leur supposée non-langue d'enfant, puisque enfant veut dire qu'il ne parle pas étymologiquement. Mmh. Et donc, à chaque fois que Scherer parle de l'enfance, il s'arrange pour ne pas leur mettre des mots dans la bouche. Il s'arrange pour citer, par exemple, des magnifiques textes de Pasolini à partir d'un petit poème qui s'appelle La Ricotta. Oui. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle La Ricotta, mais là-dedans, Pasolini fabrique ou se décrit comme un fœtus adulte. Oui. C'est absolument magnifique, parce qu'avec ça, on traverse toutes les cases à toute vitesse. Voilà. Il y a aussi ce titre de film dans lequel il a joué, mais on en reparlera peut-être, que je ne sais pas prononcer. Rasdep. Et du coup, 78-79, évidemment, donc c'est un siècle d'homosexualité, c'est un livre pédagogique, un texte pédagogique, un film également, qui a été classé X, donc il a été coupé. Et de cela, Lionel Souka a tiré un autre film qui s'appelle X, I-X-E, qui est composite à partir d'images coupées, d'images censurées.
Tout à fait. Alors, on approche de la fin de notre émission, parce qu'il y a une seconde émission en direct qui va arriver tout de suite. On peut peut-être lire un petit extrait du Peuple Enfant, et on en restera là. Alors, je prends un extrait pour faire entendre les cris de René Scherer. Donc, Le peuple enfant, ce texte a été... Donc, c'est, je vous lis ça de la revue Chimère numéro 105, hein, consacrée essentiellement à René Scherrer. Donc, Le peuple enfant a été publié pour la première fois en version anglaise sous le titre The Majority of the Minor, dans le recueil Becoming Major, Becoming Minor. Donc, c'est Vanessa Brito, notamment sous la direction de Vanessa Brito, ici avec nous. Alors, je lis le début de ces lignes de cet article. En guise d'exorde et pour esquisser ma ligne d'attaque, je rappellerai un mot qui n'est pas de Deleuze, mais aurait pu l'être, hein, qui date lui aussi de cette période d'expérimentation politique et sociale précédant ces années d'hiver, selon l'expression de Félix Guattari, dans lesquelles nous n'arrêtons pas de nous enfoncer. Ce mot est de Jean-François Lyotard, dans « Au juste ». Majoritaire ne veut pas dire grand nombre, mais grande peur. Qui pourra nier aujourd'hui plus encore la pertinence de cette formule au temps de l'émergence de la peur des bandes et d'une façon générale l'incertitude, l'inquiétude devant les passions et les mouvements incompréhensibles aux adultes, incoercibles du peuple enfant. Le peuple enfant, l'expression due à Alain, conviendrait certainement aussi à Fourier. C'est dans l'horizon de ce peuple que peut se poser la question de la minorité ou de la majorité de l'enfance. Question qui ne relève pas tant de la technique éducative, des sciences de l'éducation, née dans les sciences de l'homme, mais de la politique, ce qui me ramène tout de suite à l'expression lyotardienne de départ. Vous avez entendu René Scherrer, son écriture très claire et en même temps très conceptuelle. Le temps approche, je vais devoir un petit mot de conclusion, Un dernier souvenir de René Scherrer, ou une dernière idée.
Bien, peut-être sur la capacité de Scherrer à prendre de la distance.
Oui.
Et il me semble que c'est aussi à ça qu'il nous convie, c'est-à-dire à n'être pas non plus, justement parce que c'est une politique du désir, ce n'est jamais une politique de la fusion.
Oui.
Et donc, distance dans la relation, distance dans la capacité de penser les concepts, mais distance aussi dans la manière finalement ludique de se les approprier, le jeu, mais aussi de la distance chez Scherrer, beaucoup.
Voilà. Eh bien, Marido, un mot. Marie-Dominique Garnier.
Qui me vient en repensant à ce que disait, encore une fois, Pasolini, hein, qui se moquait de la prose sordide de l'actualité, et donc Scherrer est plutôt du côté de l'inactuel au sens nietzschéen, l'inactualité, la force inactuelle. Ce qui veut dire que ces textes sont à lire et seront à lire en 2030, 50, peut-être tout de suite, mais c'est ce temps à venir.
Merci. Merci beaucoup Marie-Dominique Garnier, Vanessa Brito, Christiane Voller. La revue Chimère numéro 105, René Scherrer en transversal, vous en avez eu quelques extraits. Merci à tous mes invités. Et voilà, vous continuez à écouter Aligre FM. Une prochaine émission arrive tout de suite. À très bientôt. Merci beaucoup.
Aligre FM 93.1.